Voilà, le passage que nous allons lire ce matin se trouve dans l'évangile de Luc et au chapitre 18. L'évangile de Luc et au chapitre 18, l'intitulé de la prédication de ce matin sera « Seigneur, que je recouvre la vue », tiré justement du verset 41 de Luc 18. Mais je vais lire le passage et le récit de cette guérison. Il nous dit que comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé !» Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louait Dieu. Le même récit se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et là nous apprenons que son nom est Bartimée. Nous ne pouvons que remarquer que certainement il avait déjà entendu parler de Jésus, de ce Jésus de Nazareth, car à peine est-ce qu'il avait entendu que c'était lui qui passait, qu'il s'écrie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Donc c'était peut-être, il avait un désir déjà dans son cœur, il avait entendu tellement de choses, il dit « Ah, si je pouvais un jour le rencontrer, je ne peux pas aller vers lui parce que je ne le vois pas, j'ai personne pour m'emmener, mais si jamais il passe, oh j'aimerais bien le voir !» Et là, l'opportunité d'être guéri par Jésus était là, et il ne fallait pas le rater. Mais curieusement, Jésus s'adresse à un aveugle et lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est une étrange question. Demander à un aveugle qu'est-ce qu'il aimerait par-dessus tout. Et là, Bartimée avait une opportunité de demander n'importe quoi, parce que Jésus lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Là, Bartimée avait l'occasion de demander la richesse, de demander le pouvoir, de demander une longue vie. C'était une opportunité qui avait été donnée à Salomon lorsqu'il était nouveau roi. Et dans Romains chapitre, 1 roi chapitre 3 et verset 5 et puis aussi verset 9, Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Et Salomon, plutôt que de demander la richesse, la longue vie ou la mort de ses ennemis, eh bien, il demande à Dieu la sagesse pour diriger ce peuple. Il se sent bien jeune, il se sent bien incapable de diriger un aussi grand royaume que celui qu'il reçoit de son père David. Mais ici, le mendiant, eh bien, et ce qu'on trouve assez normal, il demande et dit « que je recouvre la vue ». Pour lui, la chose la plus importante était de pouvoir voir. Et puisqu'il dit de recouvrer la vue, certainement qu'il avait vu et qu'il l'a perdu. Donc il savait ce que c'était que de voir. Et il avait une idée de ce qu'il manquait. Et donc il dit « je voudrais par-dessus tout la vue ». Quand Bartimée a prononcé cette requête, est-ce qu'il pensait à toutes les implications que pouvait entraîner un recouvrement de la vue? Pensait-il seulement à ne pas devoir dépendre des autres pour trouver son chemin? Pensait-il peut-être dire « ben, comme ça je peux faire ce que je veux, je ne suis pas aussi obligé de chaque fois trouver quelqu'un qui veut bien » m'accompagner ? Ou savait-il que ça entraînerait une transformation totale de sa vie ? Ce serait carrément une autre vie, un autre régime, il mettrait fin à une certaine existence et il commencerait une nouvelle. Certainement, hein, il faudrait à partir de là, ce jour-là, hein, si il recouvre sa vue, il faudra travailler. Et non seulement travailler, mais parce qu'il aurait goûté à ce que c'est que d'être handicapé et de ne pas pouvoir travailler, eh bien, il aura une sensibilité particulière pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Et il aura ce devoir même d'aider plus que tous les autres, ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il l'aura vécu, parce qu'il les comprendra, il pourra se mettre à leur place. En fait, là, il accomplirait l'exhortation que l'apôtre Paul donne aux Éphésiens, à ceux qui n'ont pas travaillé jusque-là. Il leur dit qu'ils travaillent en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 26. Donc, ce n'est pas juste une question que d'avoir, de gagner, d'avoir un salaire et puis après de se considérer comme étant le maître de ce salaire et de pouvoir en faire ce qu'on veut. L'apôtre Paul dit que le chrétien, lui, considère comme venant de Dieu, comme quelque chose qui lui a été confié, et il cherche d'abord à voir comment, oui, bien sûr, subvenir à ses besoins, mais aussi voir comment il peut servir avec cet argent et comment il peut aider d'autres et l'œuvre de Dieu. Une première chose que nous voyons ici dans cette requête de Bartimée, c'est qu'il demande le recouvrement de la vue. Je vous propose de prendre cette guérison miraculeuse de Jésus comme une parabole pour illustrer la transformation qu'encourt celui qui vient à Jésus pour recevoir la vie, cette vie nouvelle. Nous parlons d'une nouvelle naissance, nous parlons d'une nouvelle vie, nous parlons d'un nouveau commencement. Et bien sûr, quand on la demande, quand on vient à Christ pour cela, on demande pour autre chose que ce qu'on a. Mais on n'est pas toujours, on ne sait pas exactement ce qu'on demande, ce que cela impliquera. Mais on lui fait confiance. Mais avant de demander pour le recouvrement de la vue, il faut déjà être conscient qu'on est aveugle. Et cet homme avait peut-être déjà vu, et donc il savait qu'il avait besoin de voir. Mais ce n'est pas forcément évident chez celui qui n'a jamais vu. Imaginez une personne qui naît aveugle et qui grandit au milieu de personnes non-voyantes. Il n'y aurait personne pour dire aux autres qu'il ne voit pas. Et il finirait par penser que c'est normal et qu'il ne se poserait pas plus de questions. S'ils sont tous aveugles, personne ne sait, ils sont tous nés aveugles, ben il n'y aura personne pour dire à l'autre, écoute, ce serait bien si on pouvait voir. Ce serait une notion abstraite. Ce n'est que lorsque quelqu'un à l'extérieur du groupe, qui est voyant, qui sait ce que c'est que de voir, viendrait et commencerait à leur décrire des couleurs, ou la beauté du coucher de soleil, ou la beauté d'une prairie en fleurs. Et là, ils écouteraient, mais avec un mal à croire de ce qu'ils racontent, parce que ce serait tellement abstrait pour eux. C'est des notions qu'ils n'ont pas. Je me souviens avoir rencontré une fois un aveugle né, et qui se trouve en Alsace, et je lui demandais ce que représentaient pour lui les couleurs. Ben, il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune référence. Pour lui, toutes les couleurs étaient pareilles. C'est seulement qu'il avait appris intellectuellement que certaines choses étaient d'une certaine couleur. Le ciel était bleu, que la nuit était sombre, que le soleil était orange. Mais ce sont des notions abstraites. On lui avait dit que c'était comme ça, mais il ne pouvait pas le voir même dans son esprit, dans sa pensée, son imagination. C'est-à-dire, si on a toujours été aveugle, et on est avec des gens qui sont aveugles, eh bien, il n'y a personne pour aider. on se donne des conseils, on s'explique la vie, mais chacun en fonction de ses capacités et de l'univers qu'il a pu découvrir. Il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne leur dire qu'ils sont aveugles. Cela me fait penser à la fable indienne des aveugles et de l'éléphant. Chaque aveugle se faisait une autre idée de ce qu'était un éléphant, parce que chacun avait touché une autre partie de cet éléphant. L'un avait touché la trompe, et puis s'est dit, ça c'est un éléphant. Un autre avait touché l'oreille. Ah, il dit, l'éléphant c'est un cuir épais. L'autre avait touché la jambe de l'éléphant, et dit, ah, ça ressemble à un arbre. Un autre avait touché la queue de l'éléphant, et puis s'était dit, c'est un peu comme un serpent, et ça bouge énormément. Et alors, ces aveugles, chacun avec sa notion de ce qu'était un éléphant, s'étaient rassemblés, puis ils discutaient. Pour essayer de... Et ils avaient une discussion assez vive sur ce qu'était un éléphant et à quoi il ressemblait. Ce n'est que lorsqu'une personne voyante est venue vers eux, il les a écoutés pendant un moment, et puis finalement leur a dit, écoutez, vous avez tous raison, mais seulement basé sur ce que vous avez touché. Vous avez chacun des connaissances incomplètes, et donc vous ne pouvez pas vous faire une idée juste de ce qu'est un éléphant. Vous savez, ceci représente beaucoup des discussions à notre époque sur les dimensions spirituelles ou immatérielles de l'être humain, surtout quand ils font abstraction de la Bible, parce qu'ils essayent de faire des constatations par rapport à ce qu'ils peuvent voir. Et donc, vous avez le psychiatre qui a sa description de l'homme. Vous avez le scientifique qui a sa description de l'homme. Il voit sa composition chimique et puis il voit les matériaux qui le composent. Vous avez le philosophe qui, lui, a son idée. Vous avez le poète qui a une autre idée de ce que c'est que cette l'âme de l'homme. Et tous certainement disent des choses vraies. Mais s'il fallait rassembler tout cela et le créer, ça ne ressemblerait certainement pas à un être humain tel que nous le connaissons. Parce que chacun étudie et décrit et se fait une opinion basée sur ce que lui a constaté. Si nous voulons vraiment comprendre le besoin de l'homme, eh bien il faut que quelqu'un qui n'a pas été élevé parmi nous, qui est éclairé par le Créateur, qui vienne et qui nous fasse savoir. Nous avons besoin d'une révélation. Et d'où l'importance d'inclure la Bible dans sa recherche, la compréhension du besoin de l'homme et de ce dont il a besoin pour fonctionner et surtout pour réparer ses dégâts. Il faut faire appel à Jésus comme cet aveugle a fait appel à Jésus qui lui a rendu la vue. C'était le psalmiste qui, dans son psaume 36, et au verset 10, qui dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Lui a compris que de lui-même, il ne pouvait pas voir clair. Il avait besoin d'être éclairé d'une autre lumière, afin de pouvoir voir la réalité. Que cherchez-vous par-dessus toute autre chose? Ce n'est pas dans la lecture de livres de personnes qui n'ont pas tout vu que sera la solution. Salomon, à la fin de sa vie, s'adresse à son fils et nous avons cette discussion dans l'Ecclésiaste. Salomon, l'Ecclésiaste, l'homme, le vieillard. Et au dernier chapitre de ce livre, eh bien, je vous lis ce qu'il dit concernant la lecture de livres, afin d'essayer de trouver une explication à la vie. Je lis à part du chapitre 12, donc Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Il dit « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences ou de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, stimulent. Rassemblées dans un recueil, elles sont comme des clous plantés. Donc, c'est des vérités établies. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On n'en finirait pas si on en voulait le faire. Un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Voilà, il dit, tu peux lire et il y a beaucoup de bonnes choses qui sont écrites. Et c'est très intéressant. Mais il dit, à la fin, tu es fatigué et tu n'es pas satisfait, tu n'as pas mieux compris. Et donc, ce que nous devons reconnaître, c'est que de nous-mêmes, comme Bartimée, eh bien, il sera impossible de voir. Nous avons besoin de reconnaître qu'en tant qu'être humain, pécheur, sans Dieu, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Peut-être est-ce que nous allons nous contenter dans notre ignorance et puis discuter entre ignorants. Et ce serait l'équivalent d'enfants qui discutent de thèmes importants, comme où part le soleil quand il va dans l'ouest et puis pourquoi est-ce qu'il réapparaît dans l'est, hein. Ou écouter des enfants raconter là-dessus, ils ont des thèmes assez intéressants. Ce qu'ils constatent est vrai, le soleil se couche à l'ouest, il se lève à l'est, mais à part ça, ce qui s'est passé entre les deux, ben, ils n'ont aucune idée, à moins d'être éclairés par quelqu'un qui en sait un peu plus. Et nous, pour ce qui est des vérités spirituelles, pour la vie de l'au-delà, eh bien, vous savez, on a besoin d'être éclairés. Parce que nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes de pouvoir le découvrir seul. Mais heureusement, et Dieu dans sa grâce nous a donné la révélation, le livre qui contient les éléments que nous ne pouvons pas trouver tout seul et qui sont dans la Bible, le Biblos. Ensuite, il est bien de voir et puis se dire « Ah ben maintenant je vois ». Mais si on voit, c'est pour vivre une vie nouvelle. Et dans le Nouveau Testament, on parle d'une marche avec le Seigneur. Et comme je viens de le dire, nous sommes tous nés aveugles spirituellement, sans la connaissance des choses qui concernent Dieu ou notre relation avec lui. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que la situation normale pour des êtres humains et de marcher dans la lumière spirituelle afin d'être en communion avec le Créateur. Dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7, l'apôtre Jean dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, parlant de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc dans ce passage, il nous dit que la seule manière d'être en communion avec Dieu, le Créateur, c'est de marcher dans la lumière qui le caractérise. Il est la lumière. Et c'est le contraste, ce qui n'est pas, et là où il n'est pas, est ténèbre. Et c'est justement pour cela que cette démarche que nous appelons le plan du salut de Dieu pour le salut des âmes perdues a été mise en place par Dieu. C'est pour que justement nous puissions accéder à cette lumière et ayant accédé à cette lumière, être en communion avec Dieu, marcher avec Dieu, avoir des échanges avec lui. Celui qui refuse de voir cela est comme les pharisiens de l'époque de Christ. Jésus leur répondit et dit « Vous étiez aveugles. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Celui qui croit tout voir et se dit « Il n'y a rien d'autre, j'ai tout vu, je connais tout », eh bien, il ne peut pas progresser. Et il reste dans son erreur, il reste dans ses pratiques, et elles ne sont pas il est dans l'erreur. Le proverbe français dit « Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. » Et il n'a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, même dans les dictons populaires, eh bien, on a remarqué que celui qui croit tout savoir, celui qui ne veut pas voir autre chose, eh bien, il est le plus aveugle des aveugles. Et en plus, nous voyons dans le premier épître de Jean, c'est qu'il nous dit que celui qui vit dans la désobéissance à Dieu, eh bien, vit dans les ténèbres spirituelles. Dans Jean chapitre 3, les versets 20 et 21, nous dit « Car quiconque fait le mal est de haïr la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc il nous dit, celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui qui veut continuer à marcher dans l'erreur, dans la désobéissance. Et il ne veut pas que son ignorance soit révélée. Mais celui qui vraiment cherche la vérité, eh bien, il est prêt à venir à la lumière. Et celui qui marche dans la vérité, eh bien, il ne craint pas la lumière. Vous savez, il est étonnant le nombre de chrétiens qui voudraient vivre dans la pénombre spirituelle. La pénombre, c'est là où il n'y a ni la lumière totale, ni les ténèbres profondes. Comme si c'était possible, mais dans ce passage, je ne vois pas que 1 Jean ait la moindre idée d'une option intermédiaire qui serait la pénombre. C'est-à-dire, certains se font dans l'idée, j'aime Dieu, je veux marcher, mais ils ont un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Jean n'admet pas cette solution. C'est clairement dit, pour Dieu, c'est ou les ténèbres ou la lumière. Si Dieu est lumière, il n'y a pas de pénombre en lui, et tout ce qui n'est pas en lui est considéré comme des ténèbres. Ou on est dans la lumière et en communion avec lui, ou on n'est pas, et donc on n'est plus en communion avec lui. C'est assez catégorique, mais bon, c'est raisonnable aussi, hein, on ne peut pas vivre à cheval sur les deux mondes qui sont opposés. Donc, La question, c'est comment est-ce que le disciple de Jésus peut vivre dans la lumière? Comment peut-il être la lumière du monde? Puisque Jésus le dit, hein, en Matthieu 5, 10, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors comment est-ce que les disciples de Christ peuvent être la lumière du monde s'ils ne marchent pas eux-mêmes dans la lumière? Donc il n'y a rien de plus naturel pour l'enfant de Dieu, celui qui a été éclairé, celui qui a reçu la vie, qui a reçu la lumière, hein, le recouvrement de la vue, et qui voit maintenant par la foi, il voit beaucoup de choses qui lui expliquent la vie, comment elle est, et il interprète tout de manière plus claire. Eh bien, mais ce qui est normal, c'est que maintenant, il marche dans la lumière. Et donc, c'est la volonté pour celui qui a recouvré la vue spirituelle, c'est de maintenant marcher dans cette lumière qu'il a reçue de Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde hein. ». Donc, comme nous disions de Bartimée, c'est qu'en demandant de retrouver la vue, eh bien, il demandait à une vie nouvelle, hein, que tout allait changer. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons trouvé la lumière, nous avons vu clairement, et la Bible s'est ouverte à nous, et bien maintenant, nous nous trouvons devant, c'est pas un choix, nous devons vivre cette vie nouvelle. Vous ne pouvez pas imaginer Bartimée dire « Oh, bon, c'est trop compliqué, moi, je ne veux plus voir, crevez-moi les yeux parce que je veux retourner à l'ancienne vie. » Non, il va vivre. Et vous notez même que Bartimée, à peine avait-il recouvré la vue, qu'il s'est levé et il s'est mis à suivre le Seigneur. Dans l'évangile de Marc, on voit même qu'il avait laissé son vêtement de mendiant et qu'il avait suivi le Seigneur. Lui ne savait pas peut-être que Jésus se rendait à Jérusalem, et qu'il se rendait à Jérusalem pour mourir pour lui, et pour que nous aussi, nous puissions avoir nos péchés pardonnés. Mais il a compris que recevoir la vue, c'est afin de le suivre. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, il dit « Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et nous voyons à la fin de ce passage de Luc 18 et verset 43, il nous dit que Bartimée suivit Jésus en glorifiant Dieu. Sa vie est changée. Il a un chant nouveau, il a un récit nouveau, il a une nouvelle relation avec Dieu et il glorifie Dieu. Et c'est ce qui est tout à fait normal pour celui qui reçoit la lumière spirituelle et qui comprend maintenant la place de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, et qui comprend ce que c'est que la vie nouvelle, qui comprend combien les péchés d'avant dérangeaient Dieu, et que maintenant il ne veut plus les vivre dans le péché, mais vivre dans la lumière et dans la communion avec Dieu. Et en fait, David, le psalmiste, exprime cela parce qu'il a compris que marcher avec Dieu, ben, c'est suivre un sentier. Hein. Jésus avait dit « Je suis le chemin ». Et dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Donc il a dit, j'ai un sentier, et la seule manière pour moi de marcher dans ce sentier, c'est d'avoir la lampe, la parole de Dieu. Et d'où l'importance pour chaque enfant de Dieu de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Bien sûr qu'on peut lire des méditations, et c'est toujours utile parce que les gens nous font remarquer des choses que nous n'aurions pas peut-être vues tout seuls. Mais ça ne remplace jamais la lecture de la parole. Ce n'est pas lire des feuillets du calendrier La Bonne Semence ne remplace pas la lecture de la parole. Oui, bien sûr, il y a un petit passage, il y a un verset, et c'est toujours ça. Mais ne prenons pas seulement des repas digérés par les autres, hein, lisons la parole elle-même. Et développons cette relation intime avec la parole et développons cette capacité de pouvoir tirer sa nourriture spirituelle directement de la parole. C'est intéressant aussi que l'apôtre Paul, quand il donne son témoignage, il dit que Dieu avait un plan pour lui. Et ce plan, eh bien, voici comment il le décrit. Dans Actes 26 et au verset 18, il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous voyez ce plan en trois étapes. Il dit que pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, et que par la foi, ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est tout le plan de Dieu, et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Mais la première chose, c'est qu'il faut passer des ténèbres à la lumière. Et Si vous êtes encore de ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont pas cet éclairage, eh bien, je vous invite à chercher cette lumière en ouvrant la parole de Dieu, en disant « Dieu, éclaire-moi, je veux voir ce que je ne peux voir naturellement. » Et puis, il vous conduira. Aussi, si vous avez reçu le Seigneur, si vous êtes né de nouveau, comprenez que vous avez reçu la vue, c'est pour marcher dans la lumière et non dans les ténèbres comme avant. Et de vraiment vivre cette vie nouvelle, d'obtenir et le pardon des péchés, oui, et puis l'héritage avec les sanctifiés en marchant dans ce chemin. Donc je vous encourage à lire la Bible régulièrement et aussi à marcher dans la lumière, non pas dans la pénombre, elle n'existe pas. Marcher dans la lumière, être en communion avec Dieu. C'est ce qu'il a voulu, c'était tout l'objectif de son plan. Et c'est ce qu'il désirait le plus pour nous, c'est que nous puissions marcher dans la lumière, comme Bartimée désirait plus que tout de recouvrer la vue. Que le Seigneur vous bénisse richement, et puis priez pour nous. À bientôt, au revoir.